VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Villon, il est 11h en temps universel. Bienvenue. Le général soudanais Abdel Fattah al-Burhan a été intronisé aujourd'hui à Khartoum comme chef du Conseil souverain, l'institution chargée de mener la transition du Soudan vers un pouvoir civil. Le nouvel homme fort à Khartoum était jusqu'alors le numéro 1 du Conseil militaire de transition au pouvoir depuis la destitution du président Omar el-Béchir le 11 avril sous la pression de la rue. Selon les termes de l'accord officiellement signé samedi dernier, le général Abdel Fattah al-Burhan sera aux manettes du Conseil pendant 21 mois et un civil lui succédera pour le reste des 39 mois de transition prévus. En République démocratique du Congo, les partisans de l'ancien président Joseph Kabila ont annoncé mardi avoir proposé en majorité de nouvelles figures pour le prochain gouvernement de la RDC, attendu depuis 7 mois dans une conférence de presse. Mercredi dernier, le président Félix Tshisekedi avait refusé une première mouture de gouvernement, estimant que la liste proposée ne respectait pas assez la parité homme-femme et l'équilibre entre ancienne et nouvelle génération, selon une source proche du premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Au Cameroun, la décision de la justice militaire de condamner à vie 10 leaders séparatistes anglophones a suscité diverses réactions hier à Yaoundé. Rejoignons notre correspondant Emmanuel Julenta.
Les avocats des 10 leaders séparatistes anglophones sont encore sous l'effet de la sentence rendue au petit matin contre Ayouk Sissigou et les 9 autres devant le tribunal militaire de Yaoundé. Donc Christopher Nfé, avocat.
Comment juger quelqu'un qui a à sa charge la condamnation à vie sans avocat? C'est la violation pas possible de tout instrument du monde. Ils doivent être condamnés à vie. On ne dit pas qu'on ne connaissait pas. Et nous disons, ils ont vite allé en besoin sans toutefois suivre la procédure normale. Nous disons, c'est le braquage judiciaire, c'est le cinéma.
Au cours de l'audience, les avocats des leaders séparatistes ont recusé le juge militaire en charge de l'affaire. Ce dernier n'a pas cédé à cette procédure. Maître Don Christopher, avocat des leaders séparatistes anglophones, craint que la décision ne fasse entorse à la volonté du dialogue.
Tout un gouvernement qui veut, il prône le dialogue. Est-ce que c'est le sens de la dialogue là-bas? Vous avez pris les gens, dialogue avec eux, vous comptez seulement leur infliger la peine à vie. Ils crient la rentrée scolaire. Est-ce qu'ils ont, à travers cette décision, satisfait les anglophones? On dit non.
Les Camerounais ont appris la nouvelle de la condamnation à vie des leaders séparatistes avec surprise. Ils ne sont pas pour autant indifférents au verdict rendu. Joseph Yomba Boni, juriste conseil.
L'État du Cameroun a usé d'un pouvoir qui, sauf erreur de ma part, est le sien. Celui de préserver l'intégrité du territoire camerounais.
Jean Abanda est expert en santé publique et pense que l'État du Cameroun n'a pas appuyé sur la pédale douce avec ce verdict.
Le Cameroun traverse une situation sécuritaire sans précédent. Je pense pour apaiser les tensions, et on aurait pu faire autrement. C'est-à-dire en dissuadant ceux-là qui veulent partir parce qu'ils ont quand même des raisons.
Au sein du parti au pouvoir, le verdict est considéré à sa juste valeur mais n'exclut pas la volonté de dialoguer du pouvoir, selon Jean-Baptiste Temengue, militant du RDPC.
Je suis solidaire de cette décision parce que cette décision a été rendue au nom du peuple camerounais. Il n'y a pas de pardon ni de réconciliation sans justice. Et cela n'est pas incompatible avec le dialogue dont ensuite le président de la République dispose d'un certain nombre d'outils que lui confère la Constitution pour ensuite apaiser la situation parce que c'est le vœu de tous les Camerounais.
En janvier 2018, les 10 leaders séparatistes anglophones avaient été arrêtés au Nigeria et extradés au Cameroun. Leurs avocats ont annoncé qu'ils vont interjeter appel. Yaoundé, Emmanuel Jolutap, VOA Afrique.
Des sénateurs libériens se sont alarmés mardi de la montée des violences politiques dans leur pays, dressant un parallèle avec celle qui avait fini par plonger le Libéria dans une guerre civile particulièrement atroce de 1989 à 2003. Samedi, des partisans du président George Weah ont encerclé un bâtiment où Telia Huré, candidate de l'opposition à une élection législative partielle, tenait une réunion dans la banlieue de la capitale Monrovia. L'un des assaillants a essayé de donner un coup de couteau à Mme Huré, a-t-elle expliqué elle-même lundi, dénonçant une tentative d'assassinat. Les autorités ont qualifié lundi ces violences d'épouvantables et promis des sanctions sévères. Au Niger, les employés d'Orange ont entamé hier une grève de 2 jours pour obtenir des négociations salariales et des garanties sur l'avenir de leur emploi. Abdourahmane Dia.
Lundi matin, Souleymane Diallo est le directeur de Lynx FM, une radio privée qu'il a créée il y a quelques années, arrive dans le locaux de la Direction nationale de la police judiciaire. Le patron du groupe de presse Lynx est entendu pendant des heures par 2 agents. S'ensuivit une autre audition devant le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kaloum. Il est inculpé et placé sous contrôle judiciaire. Souleymane Diallo est accusé de complicité de production, de diffusion de données de nature à troubler la sécurité publique, porter atteinte à l'honneur et la dignité sur le fondement des articles 32 et 33. De la loi sur la cybersécurité. La procédure a été engagée après l'intervention dans l'émission Aide de Lynx de Doussou Condé, une opposante au régime du président Alpha Condé basé aux États-Unis. Dans une déclaration publiée lundi, l'Union des radios et télévisions libres de Guinée se dit préoccupée. Zakaria Camara pour VO Afrique, Conakry.
Voilà, vous aurez plutôt entendu le reportage de Zakaria Camara sur l'emprisonnement du fondateur du groupe de presse Lynx à Conakry, Souleymane Diallo donc, toutes nos excuses. L'ONU a décidé de repousser une conférence sur la torture prévue en septembre au Caire après des critiques d'ONG de défense des droits humains, a indiqué mardi un porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Des groupes de défense des droits humains locaux et internationaux ont critiqué la tenue de cet événement, affirmant que les forces de sécurité égyptiennes font usage de la torture. L'Égypte réprime sévèrement ses dissidents depuis le renversement par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi en 2013 après des manifestations massives contre son autorité. Vous suivez VOA Afrique, un terroriste et un officier de police sont morts au Cachemire sous contrôle indien dans une fusillade qui a opposé des activistes aux forces de sécurité, a indiqué aujourd'hui la police. L'incident qui s'est déroulé dans le district de Bahabumla, dans le nord du Cachemire, est le premier à être rapporté par les autorités indiennes depuis qu'elles ont révoqué le statut d'autonomie spéciale dans la partie du Cachemire qu'elle contrôle. Afghanistan, le négociateur américain Zalmay Khalilzad a quitté hier les États-Unis pour se rendre à Doha et doit reprendre des pourparlers avec les talibans dans l'espoir de conclure un accord permettant le retrait des soldats américains de l'Afghanistan. Nathalie Barge.
L'administration de Donald Trump espère que ce nouveau round de discussion à Doha sera le dernier et qu'il permettra de déboucher sur un accord avec les talibans. Il prévoit un retrait militaire américain avec un calendrier précis. En retour, les talibans s'engagent à ce que les territoires qu'ils contrôlent ne soient plus utilisés par des organisations pour mener des attaques terroristes. Un cessez-le-feu ou tout au moins une réduction de la violence devrait également figurer dans le texte qui serait historique 18 ans après l'invasion de l'Afghanistan par les États-Unis. Les talibans accepteraient aussi pour la première fois d'engager des discussions avec le gouvernement de Kaboul. D'ailleurs, le département d'État précise que Zalmay Khalilzad doit se rendre ensuite à Kaboul pour encourager les préparatifs de ces négociations inter-afghanes qui pourraient se tenir à Oslo. Les États-Unis ont engagé depuis 1 an un dialogue direct inédit avec les talibans. La dernière session s'est achevée il y a moins de 10 jours au Qatar. Le président Trump souhaite un retrait des troupes américaines d'Afghanistan avant l'élection présidentielle de 2020.
Et les États-Unis sont prêts à reprendre leur discussion de travail en face à face avec la Corée du Nord, au point mort depuis plusieurs mois, a déclaré aujourd'hui l'envoyé spécial américain à Séoul. Les pourparlers bilatéraux sont dans l'impasse depuis l'échec du second sommet à Hanoï en février entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Mais la fin mardi des exercices militaires annuels conjoints des forces américaines et sud-coréennes, considérées comme un acte hostile par la Corée du Nord, semble ouvrir la voie à la reprise des pourparlers. Et puis Donald Trump a annoncé mardi que des contacts à très haut niveau avaient lieu entre Caracas et Washington, des déclarations confirmées par le président socialiste du Venezuela, Nicolas Maduro, qui a précisé que ces échanges avaient lieu depuis des mois. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francisque. Merci de nous suivre et à tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.